C'est un sujet qui est un peu tabou, dont on ne parle pas forcément volontiers, et ça explique peut-être le fait qu'il n'y ait pas beaucoup plus de monde que ça. Mais merci beaucoup pour ceux qui sont venus, je suis très content de vous voir, merci bien. Alors, je vais vous présenter la soirée. Donc la soirée est organisée par la FOX. FOX, c'est Fondation Promotion Santé, qui est un organisme qui regroupe les écoles, les services médicaux de la Chaux-Fonds et du Lot, et puis qui s'occupe d'organiser des activités de prévention, des activités autour de la santé des jeunes, des deux villes, du Lot et de la Chaux-Fonds. Et puis dans ce cadre-là, on organise un certain nombre de conférences sur différents thèmes, et c'est pour ça qu'on a organisé la soirée d'aujourd'hui. Et dans les thèmes importants qui nous semblent avoir par rapport à la santé de la jeunesse, il y a celui-ci qui est sorti récemment, c'est qui que le sujet de l'orientation sexuelle et de l'homosexualité à l'adolescence est un sujet important. L'adolescence, c'est un moment où les jeunes ont à se définir la façon dont ils se présentent par rapport aux autres personnes, quels choix ils prennent dans leur choix de vie, par exemple, de métier, comment ils se présentent par rapport aux autres, des choix amoureux, par exemple. Et puis, la sexualité, de façon générale, joue un rôle très important. Souvent, les jeunes avec qui on discute, les problèmes de vie à la sexualité, c'est important. Chacun a l'amour, les plaisirs d'amour. Alors, on a décidé de parler de ce sujet-là, et puis, en cherchant des ressources, on a appris qu'il y avait l'association qui s'appelle La Boussole, qui s'occupe spécifiquement de faire de l'information sur ce thème de l'orientation sexuelle. Alors, c'est avec eux qu'on a organisé cette soirée. La soirée sera gérée par M. Dupont. À la suite de la conférence, vous pourrez acheter des livres si vous voulez poursuivre la réflexion. Et on a mis une boîte jaune là, si vous voulez soutenir les activités de la force, permettre d'organiser des conférences comme ça, un petit don sera le bienvenu. Voilà, je vous fais la parole. Merci. Merci.
Voilà, ben bonsoir. Merci de nous avoir invités. Déjà merci à vous d'être venus aussi. Alors, on nous a effectivement mandaté avec l'association La Boussole pour cette soirée, pour parler des sujets de l'orientation sexuelle, principalement à l'adolescence. Je vous ai posé beaucoup de questions en disant Capitaine, passons d'animer une soirée. Est-ce qu'on vous passe un film pendant une heure et demie? Est-ce qu'on fait une conférence pour un grand spécialiste? Des années de recherche sur le sujet des notes pour un examen à la fin. Et il y avait plusieurs options qui s'ouvraient. Et on a décidé, moi je n'étais pas là, de se dire que ce serait plus sympathique si on faisait quelque chose qui parle du vécu et qui soit un petit peu interactif. Alors, ici ce soir, mon rôle à moi, parce que ça va être animé cette soirée, donc je vais un peu faire le passeur de parole, si je peux dire, d'une personne à l'autre. On s'exprimait, on a trois personnes qui sont là à mes côtés, ou eux qui vont, plus que vous parler, qui vont peut-être répondre à vos questions. Alors, commençons massivement, on va un peu parler la soirée en deux parties. Histoire de se mettre dans le bain, on s'est dit, on va faire une première partie avec une partie témoignage, c'est-à-dire, tiens, comment est-ce que ça se passe quand on se découvre sur notre homosexualité à l'adolescence. Qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qui se passe aussi pour les parents, vous devriez destiner aux parents aussi, avant tout, également. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un enfant, on pense qu'un de nos enfants a être homosexuel, qui est lesbienne, a une orientation sexuelle différente, comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce qu'on vit. Alors, plutôt que vous faire des explications, un long discours, je sais que je suis assez bavard. On s'est dit qu'on allait plutôt faire ça sous forme de témoignage. Et ce qu'on a cherché, c'était est-ce qu'il existe dans la région du Lot et de la Chaux-Fonds, ou dans le canton de Créteil, des personnes qui ont vécu ça et qui se la comprennent pas.
Eh bien oui, c'est qu'on a pris une soirée.
Je sais que la première partie, on aura deux parties témoignages de personnes qui sont ici que je vous présente directement, qui sont, je vais faire un petit nom, madame Helmond Chair, qui va témoigner donc le parent, et Lucien Guillemin, qui lui va témoigner en tant qu'adolescent, que post-adolescent. Jeune adulte, voilà, qui va pouvoir témoigner de son vécu. Et puis vous me direz, mais il y a une personne à table. Qui est-ce? C'est pas Henri, le président de l'association de la Boussole, qui est de sa profession enseignant à l'école secondaire de Morges. C'est un prof d'allemand. Je vais parler d'allemand. Il a fait un jour annoncer à ses proches qu'il était trop d'âge. Stéphane, qui va être comité de Team Cross, il a beaucoup d'aide à l'établissement, et qui est spécialiste. On va l'utiliser ce soir comme spécialiste de la question, développement de l'adolescent, ou spécifique. Ça va répondre à ces questions-là. Alors, première partie, témoignage, et deuxième partie, on va essayer de faire un jeu de questions-réponses. Sur les questions que vous avez, on va essayer de faire en sorte que nos témoins ou nos spécialistes puissent répondre aux questions que vous posez. Voilà pour le programme de la soirée. J'espère que ça vous convient. Si vous avez des questions, des demandes, quelque chose, n'hésitez pas, vous allez voir. C'est un peu comme à l'école, là, vous mettez la main, vous mettez, et là, on s'arrête, on change de sujet. Passons directement sur la cause. Au témoignage. Je vais passer à la. Est-ce que vous vous demandez de déjeuner la passer avec moi? Et donc, je m'installe ici. Je vais régler le micro, je vais avoir une plateforme. Bien, on va faire le micro. Alors, vous sachiez, on vous cache bien, le. La partie de la conférence est enregistrée. Et si vous n'avez pas tout bien compris, vous pouvez réécouter sur le site de la force. Vous pouvez réécouter les différentes conférences qui sont en audio. Ce n'est pas filmé, ce n'est pas photographié, mais c'est enregistré de façon audio. C'est pour ça qu'on peut utiliser les micros. Ça passe dans la zone très simple pour enregistrer. Je l'ai dans ces marches. Je vais préparer des fiches. Voilà, tout le monde est levé. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si ça marche, vous m'entendez. Je vous présente Lucien, qui a dit une présentation.
J'attire une majorité professionnelle commerciale à fond et je m'en vais pour jeunesse pour la suite des études. Et donc voilà.
En gros, donc un jeune soigné, un problème d'autre comme ça. Est-ce que, d'accord, vous parlez un peu de comment la découverte va dans une spécialité?
Alors la découverte, elle se fait, j'avais 14-15 ans par retour. Et puis, sincèrement, déjà, je me sentais un petit peu différent. Je voyais qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas forcément en rond. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que moi, je n'étais pas attiré par les filles, tout simplement. Ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Et c'est venu petit à petit, c'est de plus en plus clair. Après, il faut se l'avouer, en fait, qu'il a accepté de pouvoir aller plus loin. Au début, ça, on se pose des questions, on n'est pas tout à fait super déçu, on est vraiment par des doutes comme ça, plus ou moins sur la piste.
Est-ce qu'il y avait dans des doutes d'être accroché à une théâtre, des modèles, des gens que vous connaissez
Non, il n'y a pas eu de modèles, non.
D'accord. Et puis, est-ce qu'un jour, vous avez apprécié pour toi, où ça a été plus clair ou...
Ça vient de ça. Il y a un moment où on dit stop, il faut arrêter de se poser des questions, il faut y aller, finalement, de la mettre à soi-même, et puis qui se construit comme ça. Mais il n'y a pas toujours, c'est vraiment quelque chose qui vient comme ça, qui est plus en plus net.
Peut-être pas, c'est pas vraiment la phase, je pense. Pour la période du coming in, moi je me bien coming out, parce que c'est on parlait des poubelles, des phases avant, on dit bien, pour soi, on dit bien. Alors c'est le début de l'évolution, et puis après, d'essayer en plus de parler de toi.
Dans un premier temps, on est parlé à une amie proche, ça m'a permis de voir que c'était quelque chose qui ne posait pas forcément de problème. Et puis après, petit à petit, je me parlais avec tout le monde, et puis après, je suis allé par la famille, c'est assez récent. Et je dirais l'étape la plus difficile, voilà, qui commence pour la famille, entre les amis, c'est en général tout le monde. De voir ce que ça donnait des amis, de tester un peu pour la température, et puis après, moi j'ai fait la suite avec ma famille. Et c'est vrai que c'est des étapes assez difficiles, et puis on est bien contents de cette étape.
Je peux le dire deux, trois mots, c'est pas très simple.
Alors, avec des amis, c'est super bien allé. Il y a quelques personnes qui se sont posées des problèmes, et puis j'ai passé mon chemin. Enfin, c'est des personnes qui vont pas manquer dans ma vie, à mon avis. Et puis, avec la femme, c'est aussi super bien allé. Maintenant, c'est pas le cas pour tout le monde, comme ça, mais moi, c'est très bien allé.
Pas de soucis à ce niveau-là, non. Et donc, le courage, et après, des amis, la famille, après, à l'école, le courage.
À l'école, ça n'a pas posé de problème durant cette année, parce qu'on est passé il y a quelques cours. L'année scolaire, il n'y a pas eu de problème. On a eu dans le bâtiment d'école, dans la classe même, tout ça, on n'a pas obligé de faire avec.
D'accord. Et puis, si tu arrives à cerner comme ça des réactions positives que tu as eues, que tu as eues, des réactions
négatives. Des réactions positives, on a eu beaucoup. Je pense que dans la famille, il y a toujours une première réaction plutôt d'étonnement, comme ça, parce que je pense à des fois, des personnes, mais chez moi, c'était l'étonnement, des personnes qui s'y attendaient vraiment. Et ça, c'est une réaction qu'on peut dire un peu nuancée, une réaction vraiment négative, qui n'est pas à lui, mais comme une réaction que j'ai fait dans mes parents. Et sinon, des réactions positives, on a plusieurs. La réaction de ma famille en général, c'est plus positif.
Dans ton entourage ou de ce que tu vis tous les jours, c'est des choses qui ont changé ultimement pour faire.
Ben, ça change pour moi. Dans les premiers jours avec ma mère, c'était un petit peu. Il y avait pas une scène, il y avait une dilette, bien sûr. Elle arrivait comme ça à la figure un peu, elle ne s'attendait pas du tout. Et puis, voilà, il a fallu du temps pour qu'elle réfléchisse à ça, qu'elle voit qu'il y a rien qui change, mais maintenant c'est surtout pour moi que ça a changé, parce que par où j'en parle, c'est quelque chose, c'est super difficile, c'est un masque, on sort de chez soi, on est obligé d'être la personne qu'on doit être pour les autres en fait, et puis on a des émissions dans sa chambre, comme ça, où on est vraiment, on sait qui on est, et puis on peut être vraiment qui on est, mais maintenant c'est. Ce masque m'a été fondé, puis je suis pour tout le monde.
C'est plus vrai.
Voilà, c'est très vrai.
Et puis, dans les expériences que tu as vécues par rapport à ça, on parle aussi dans cette soirée de l'homophobie, est-ce que tu as senti des fois des fois de ce type-là?
Alors, j'étais malheureusement confronté à toute reprise de l'homophobie, lors des insultes, tout ça, c'est. Qu'on passe tous, des petits mots qui sont. Je veux dire, au bout d'un moment, on s'y fait, malheureusement, on se dit, ben, c'est comme ça. Et puis, je suis aussi confronté aux agressions physiques. Ça, c'est quelque chose, moi, depuis le moment où on m'a atteint physiquement, c'était vraiment le stade au-dessus. Je me suis dit, mais zut, là, il y a quelque chose qui ne joue pas. il faut faire quelque chose, et puis c'est quelque chose qui fait très mal, on se sent touché. Avant, on peut dire que c'est un film, en fait, ils ne comprennent pas, et puis voilà. Et de tout coup, ça, on a vu son film qu'un film, c'est peut-être la différence qu'on a en rapport avec le film aujourd'hui.
Du coup, ce que tu as décidé de faire,
moi, c'est mon film bac, tout simplement pour montrer que je suis quelqu'un comme tout le monde, et puis que pour Racine, c'est une question qu'on fait différemment, que. C'est-à-dire que, maintenant, dans la foule, après, si vous savez que je suis homosexuel, je sais pas si ça va être différent que, clairement, des personnes de l'année qui ne savaient pas forcément. C'est qu'on est comme tout le monde, en fait, et puis qu'on demande juste à pouvoir vivre comme une personne, comme on a tout le monde, voilà. C'est vraiment ça. Je profite pour mettre un petit peu de pub. Il y a une émission en présent qui a tourné la TSR et la réponse, c'est une idée que j'ai lancée et ils sont venus suivre sur quelques jours. Donc le 24 juin, vous pouvez suivre une émission en présent à 20h sur TSR1 où il y a trois jeunes de Suisse romande qui vont témoigner, qui sont suivis en fait dans le mouvement tous les jours, qui parlent un peu de l'histoire. Si vous voulez encore faire une émission.
Merci. Quelque chose que vous avez compris. D'accord. Bon, merci Lucien pour le témoignage. Et puis sur la deuxième partie, bon, probablement si vous avez une envie ou poser des questions, merci. Voilà, applaudissements.
Un autre de 20 ans et une fille de 17 ans. Je suis à Montpellier.
Et
plus loin que Chaudron, il y a le tunnel, ça va.
Quelqu'un du bas, mais on vient de découvrir qu'on parle la même langue, donc ça devrait aller. Donc vous avez une différence par rapport à l'homosexualité.
Il y a 2 ans, mon garçon qui a 20 ans maintenant, a fait son coming-out en fait à la fin de l'année. Et puis voilà, depuis ce moment-là, je regarde des choses différentes, j'ai connu d'autres personnes, et puis j'ai aussi envie de parler aux autres parents pour leur dire que voilà, c'est comme ça.
C'est un sujet que vous avez dit ma famille avant.
Non. Vous n'avez jamais eu de discussion? Non, parce que non, mais Florian, on a toujours senti quand même différent et on en parlait avec son papa, surtout quand il était petit. On a eu cette impression que peut-être, voilà, il n'était pas, il était reconnu, surtout quand il était petit, puis après, non. Donc c'était quand même une surprise quand il nous l'a annoncé à l'âge de 18 ans.
Comment
vous avez fait pour vous concrètement? Quand c'était fait, c'est la façon dont il l'a annoncé. C'était très dur parce que, bon, on ne s'y attendait pas du tout, mais c'est la tête qu'il faisait. Je m'en rappelle toujours parce que j'avais quand même une leçon d'auto-école avec lui. On fait toujours avec son auto-école, hein. Il a tombé à côté de la voiture et j'ai pensé, mais il y a eu un accident de travail, puis il a tué quelqu'un. C'était terrible.
Alors,
Josie, il a fait un gros grand chemin, il est quand même bon. Il était pris, il était pincé. Enfin, donc c'est un grand moment d'émotion, un grand moment. Enfin. Donc je me suis dit, mais autant de souffrance, ça fait mal.
Et puis après, quand vous avez vos annonces, vous avez vu comme il a vu.
Non, ça fait ça seul.
Et après, vous avez fait ça en famille ou par rapport aux autres de la famille?
Alors, c'est vrai qu'il m'a demandé d'annoncer dans la famille, aux oncles et tantes, aux grands-parents, mais ça c'est. J'étais étonnée des réactions, c'était positif. Il trouvait, la grand-maman, à 75 ans, elle a trouvé, mais c'est incroyable le courage qu'il a à 18 ans. Il disait, c'est formidable qu'il puisse le dire maintenant et pas à 40 ans, comme ça. Donc, ça m'a touchée. Plus ancien de la famille, je n'imaginais pas que ça passerait, mais en fait.
Et
puis
après, malade.
Mais ça joue. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on va annoncer la préférence sexuelle de ses enfants? C'est un peu, comme si ma fille, elle est gueule grande. Pourquoi on se sent aussi obligé de dire la préférence sexuelle des gens? Je pense que ça. Voilà. Mais j'annonce, j'en ai pas fait beaucoup de mots, j'avais besoin de dire aussi aux amis. Et elle me disait, voilà, que c'est bien, toi, t'as pas de soucis, c'est normal. À la limite, on m'accordait même pas le droit d'être triste. Donc, je trouve ça un peu comme une vision. Je suis quand même triste. On me dit, la vie va pas être facile, forcément. Je trouve le regard des gens, malgré, on a des témoignages positifs, mais c'est pas facile. Et ce sera pas facile tous les jours. Oui, le jugement des gens, le regard, moi, je remarque quand je suis avec Florian qui s'en est mis dans la rue, ou. Ouais, c'est pas évident.
Nous aussi, votre bon intérêt pour les témoignages, vous nous disiez, vous avez essayé de parler.
Oui, d'en parler, comme tu disais, on est des gens comme tout le monde, on va.
Et du coup, entre parents, est-ce que vous avez manqué, peut-être que vous avez eu besoin de plus de parler?
C'est difficile. Peut-être que dans la discussion avec les autres parents, ou j'ai des choses comme ça, qu'on nous présente des choses comme quelque chose qui est aussi naturel, en fait, et pas plus tard. Il n'y a pas de dialogue avec. On n'en parle pas, en fait.
C'est-à-dire que j'ai un stock de post-it et un stock de stylo. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous laisser 5 minutes, comme ça, entre vous, juste pour vous, en groupe, votre ami, etc., pour rédiger sur ces post-it avec ces stylos, mon assistant qui a dissimulé. Rédiger toutes les questions que vous posez, que vous avez envie de poser, plus celles que vous n'osez pas, de façon à ce qu'on puisse vraiment vous faire le tour, discuter entre vous. Je vous propose 5 minutes comme ça pour rédiger autant de questions que vous voulez. Le but de vos questions, c'est que vous soyez d'accord qu'on les lise ensemble après, et puis que l'un ou l'autre des témoignants, vous, Stéphane, puisse répondre de façon interactive. Sur le thème, ça fonctionne?
Thank you. Carton rouge. Un enfant qui est fou de son premier amour est un homme qui est fou.
des signes, en guillemets, que l'on peut observer chez l'enfant petit. Faut-il aborder avec les ados le sujet ou faut-il attendre les questions? Pourquoi, lorsqu'on pense à un couple homosexuel, on pense systématiquement à la sexualité en mettant de côté tout le reste? Avez-vous prévu de vous marier et comment? Où? Quelle possibilité y a-t-il de vivre une relation amoureuse à l'adolescence en qualité de homosexuel? Y a-t-il des sentiments de culpabilité en tant que parent? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'une phase homosexuelle n'est pas naturelle dans le développement d'enfants? Et quand est-ce que ça s'arrête ou pas? Connaissant une personne homosexuelle qui doute, qui a longtemps douté, qu'est-ce qui fait qu'on est sûr de soi? Voulez-vous avoir des enfants? Après tous ces préjugés sur l'homosexuel, comment arrivez-vous à garder du courage? Avez-vous honte de vos parents d'être avec votre ami? Est-ce que vous avez honte d'aller en ville avec votre ami? Vous n'avez pas honte d'aller en ville avec votre ami? D'où vient l'homosexualité? En parenthèse, éventuel facteur favorisant. À quel signe vous êtes attentif en tant que parent? Est-ce qu'on est homosexuel pour toujours? Aide psychologique au changement d'un déplacement. Aimeriez-vous que le mariage d'adoption pour votre fils soit possible? Que pensez-vous ou comment voyez-vous le milieu gay pour Clément? Pour Lucien? Que penses-tu du milieu homosexuel? Comment aider un jeune à être coming out, puisque souvent l'entourage proche ne doute de rien? Sexuellement, peut-il y avoir un revirement? Question, madame Chepet. La tristesse ressentie lors de l'annonce peut-elle liée à l'idée de ne pas avoir de petits-enfants? Qu'est-ce qui fait qu'un garçon est ou devient homosexuel? La nature, les gènes, l'éducation. Le rejet des autres, soi-disant normaux, est-il selon vous plus lié à la philosophie pour la simple peur de différence ou de la différence? Quelles sont les insultes physiques? Quand vous vous faisiez frapper, vous vous répondiez, voilà la raison. Pour vous dire. Enfin, deux questions. Une plus longue, vous l'avez dit. Ma fille a 7 ans. Elle a connu une cousine qui lui a demandé de l'embrasser sur son sexe, ce qu'elle a fait. L'autre jour, elle s'amuse sans culotte avec une autre amie et lui fait des bisous sur la bouche. Je suis perplexe, je lui fais habituellement des bisous, des bisous sur la bouche et je ne sais pas, c'est une mauvaise habitude que je devrais cesser. Je m'interroge sur la conduite que je dois adopter. beaucoup plus légère pour une question qui n'était pas une affirmation aussi. Je suis enseignant, je suis ici aussi, car je suis aussi homosexuel. Je suis prêt à témoigner, vous voyez mon expérience si vous souhaitez. Donc, je crois que c'est intéressant peut-être de commencer cette partie en disant quelques mots pour vous du point de vue de l'enseignant. Vous êtes d'accord?
Oui.
Alors, vous voulez un micro ou bien?
Non. J'avais envie d'être là aussi pour mon enseignant et pour mon homosexuel parce que c'est pas toujours évident. Et je trouve que justement c'est difficile parce que quand je vois ces jeunes dans la peine, je ne sais jamais quelle position prendre. Est-ce que j'aborde le sujet avec eux? Est-ce que j'ose en parler? Est-ce que comment je suis jugée et comment je serai jugée ici maintenant? Et comment on est jugé par les élèves? Et je pense que c'est très difficile. Et je voulais dire à Julien que je trouve que c'est beaucoup plus difficile à vivre et à découvrir comment se faire. Enfin, j'ai l'impression, comme un garçon que comme une fille. Parce qu'une fille, elle peut se balader dans la rue. En donnant la main à une copine, en donnant la copine sous le bras, c'est pas la même chose. Et une fille qui est un petit peu sportive, un peu crac-crac, qui se bat un peu avec les garçons, qui rivalise dans les jeux de balle, elle est plutôt valorisée. Or, le garçon, il est rarement valorisé. Et il est plutôt, de traiter le tout. Et il n'a plus son rôle de garçon. Et je trouve que la fille ne perd pas son rôle de fille. Je ne sais pas si vous comprenez. Au niveau de la relation, à l'adolescence, je pense que c'est moins difficile. Et puis, après, ben, moi, j'ai enseigné le mot, c'est la première fois que j'en parle, comme ça. J'en ai parlé à mes amis, parce que ce qui s'est passé, c'est un moment. J'avais peur de ne pas être vrai, quand je ne me suis jamais mariée. J'ai une amie très jeune, mon histoire s'est terminée après 15 ans, donc pas quelqu'un qui. Et je trouvais très dur, quand tout le monde disait d'aller pour la cause, qu'est-ce que tu as fait, je trouvais très dur de dire ouais, je suis à la vacance, faire semblant d'être à la vacance seule. Ce que je trouve qui est difficile, c'est de donner l'impression qu'on n'est pas amoureux, qu'on n'aime pas, qu'on n'est pas aimé, qu'on vit rien. Et il y a un moment où j'ai besoin de dire à mes amis, bon, ben, je suis aussi amoureuse, je vis quelque chose, je ne suis pas la pauvre femme élevée qui n'est pas d'enfant. Voilà. Les deux renseignements, au niveau d'une femme, c'est peut-être un peu moins difficile. Je pense que pour un homme actuellement, il y a tout aussi le regard où on lit parfois homosexualité et pédophilie comme c'est quand même lié pour l'homme. Et je pense que ça va être beaucoup plus difficile pour un homme. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à l'enseignant. J'enseigne ici, donc je ne sais pas s'il y a des élèves qui n'en connaissent pas, je ne sais pas s'il y a des élèves plus là. Je ne sais pas trop ce qui va se passer plus tard. Mais merde, je prends un risque.
Que merci pour ces remarques.
Je ne sais pas, il y a une question par rapport à ça.
Par rapport à une enseignante, peut-être dire un mot là-dessus.
Moi, je suis aussi enseignant. C'est un peu particulier dans mon cas, puisque, étant militant, en même temps, je suis un peu visible. Donc, quelque part, les élèves sont en devise. Thank you.
maintenant par rapport à la différence entre hommes et femmes, je pense que tout dépend aussi de ce qu'on en fait. C'est clair que bien faire et pas comment se dire qui serait en début de ce moment entre sexualité masculine et féminine. Maintenant, je peux croire aussi, sans vouloir dire que tous les enseignements doivent être comme gars absolument. Je crois que c'est aussi une décision personnelle. Certaines personnes estiment qu'elles ont besoin de le dire ouvertement parce que c'est une facette de leur personnalité et c'est loin d'être la seule, celle de leur personnalité. Et c'est quand même ça. D'autres estiment que ça ressort plutôt de leur sphère privée. Et c'est tout à fait juste aussi pour ces personnes-là. Maintenant, je crois aussi, et ça c'est ma condition personnelle, que nous on est clair avec soi et que nous on est clair avec mon entourage, notamment dans l'enseignement, en étant clairement moi, je suis un enseignant, je suis là pour enseigner les matières que j'ai choisi d'enseigner, mais je suis également un individu, et si on voit dans ce basket, clair aussi bien avec sa hiérarchie qu'avec ses collègues et les élèves. Je ne vois pas comment on pourrait avoir de problème personnellement, parce que dans mon enseignement, je n'ai jamais vu une commun d'élèves ou de parents. Je ne suis pas belle, je sais très bien que dans mon cours, ça jase. Je sais aussi que ça a aidé certains élèves. Je sais aussi que les remarques qui ont été faites sur moi, certains élèves qui étaient en questionnement, les ont entendus, que ça les a bloqués. Le courage d'assumer de telles remarques. Donc, peut-être aussi qu'on parle souvent de modèles positifs des enseignants. Oui, avoir des modèles positifs, donc avoir peut-être des enseignants qui sont complètement liés, lesbiennes, dans un établissement, ça peut aider certains jeunes. Ça peut en bloquer d'autres. Je crois qu'il n'y a pas de critique du fait à ce sujet-là.
Moi, j'étais très heureuse de voir que l'école organisait des conférences. Et je suis triste de voir qu'il n'y a quasiment aucun élève. Alors que j'ai bientôt été confrontée à des élèves que je sentais mal par rapport à ça. Et je me disais, mais c'est enfin l'occasion d'en parler. Et il n'y a aucun élève, presque. Je ne sais pas si vous êtes élève ou l'autre, mais là, les jeunes.
Je me demande que lui, c'est bon.
Il n'y a quasiment aucun élève. Et il n'y a aucun enseignant.
Ça fait 15 ans. Je m'excuse, ça fait 15 ans.
Mais nos élèves, 8e, 9e, sont 15.
Ah, on va pas faire un gamin.
Non, mais c'est moi, dommage, parce que
c'est un moment. C'est pour ça aussi que cette genre de conférences organisées, il y a des émissions qui
passent,
et qu'on essaye d'en parler de plus en plus, parce que, de toute évidence, les gens, franchement, je ne sais pas si c'est une question de gêne, ou de pas de disponibilité, ou de désaffect.
Mais c'est très intéressant comme remarque, je trouve, et je pense que c'est très révélateur aussi de, en fait, de ce qu'on en fait de ce sujet-là. Est-ce qu'on parle de l'orientation sexuelle ou est-ce qu'on parle de l'homosexualité? Pour moi, c'est absolument pas la même chose que de parler de l'orientation sexuelle ou de l'homosexualité. Est-ce qu'on parle de l'homosexualité ou est-ce qu'on parle de l'autonomie? C'est de nouveau deux choses totalement différentes. Personnellement, moi, je ne suis pas là ce soir pour parler de l'homosexualité plus de l'hétérosexualité. Quand on parle d'orientation sexuelle, pour moi, on parle d'hétérosexualité, on parle d'homosexualité, on parle de bisexualité, on parle d'une variété d'orientation sexuelle. Et on parle seulement d'homosexualité. Et je pense que c'est un des biais qui ressort trop souvent lorsqu'on parle d'orientation sexuelle, c'est que tout de suite, on dévie sur le thème de l'homosexualité et plus précisément sur le thème de l'homosexualité masculine. J'aimerais juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la facilité de vivre une homosexualité quand on est une femme et un homme. Je ne suis pas sûr que les filles et les femmes le vivent plus facilement. Peut-être qu'il y a une représentation de la société qui veut que ce soit plus facile parce que les filles sont pas menaçantes, elles, pour leur famille, la masculinité dominante, tandis que deux garçons entre eux sont plutôt des vrais paracondes à la cause masculine. Ils commettent ce crime-là, entre guillemets. Mais par contre, je pense que en ce qui concerne les filles, elles sont si vous double invisibilité, c'est-à-dire que non seulement elles sont dans un monde de nous et en plus elles sont liées, elles ne sont pas reconnues en tant que telles, et elles sont totalement invisibilisées à passer de la route. Je suppose que ce sont plus facile. C'est peut-être encore moins visible, mais est-ce que c'est plus facile?
Puisque tu as commencé à capter, je ne veux pas porter du verre. J'ai aimé.
Alors, par rapport au. Je vais commencer par les signes auxquels vous pouvez être rempli, dans cette question que vous avez aussi, que vous avez vu, que vous pouvez lire, que vous pouvez partir, que vous pouvez vous. Est-ce que des personnes ont vu à la vie, est-ce que des filles ont joué au camion? Je ne pense pas. Peut-être, on ne sait rien. Maintenant, par dépend de ce qu'on en fait, ces signes, est-ce que. Et c'est là qu'on rejoint les questions de votre vie. Est-ce qu'on peut voir des signes pour pouvoir corriger tir et faire quelque chose? Ou bien, est-ce qu'on peut voir les signes pour rentrer soi-même dans un processus d'ouverture et puis pour être attentif au fait que, ah, ben tiens, mon enfant, là, en ce moment, je me pose la question si il ne pourrait pas être homo, gay, lesbienne, après je me pose la question. Mais est-ce que, qu'est-ce qu'on en fait ici? C'est plus. Je pense. Et ça, je pense que comment réagir plus tard quand son enfant, il y a même un jeune, nous annonce qu'il est gay ou lesbienne, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette information? Est-ce qu'on l'utilise pour soi ou est-ce qu'on l'utilise pour asseoir véritablement son autorité et puis pour asseoir son point de vue? Je crois qu'il y a beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Quand on décède, les signes, quels qu'ils soient, ça peut être dans une attitude efféminée par rapport à un garçon, et encore une attitude efféminée ne fait absolument rien de sur la relation sexuelle. Ça peut être une attitude plutôt masculine chez une fille, ça peut être simplement une gestuelle, ça peut être des mots, ça peut être dans le discours. D'un garçon, tout à coup il y a le prénom d'un autre garçon qui apparaît souvent dans la discussion, il y a ce qu'il fait dans d'autres filles, il y a souvent un c'est une bonne copine, on l'a porté, ça peut être tout à coup un retrait, on ne comprend pas bien ce qui se passe, une volonté, une forme de dépression, ça peut être une agressivité. Donc, il y a toutes sortes de signes révélateurs qui ne sont pas forcément spécifiques à une relation sexuelle. Donc, quels sont véritablement les signes? C'est difficile à dire, c'est difficile à le détailler. Vous donnez des éléments de réponse à cette question. C'est plus de l'ordre de l'ossenti. Et ça peut aussi et par un questionnement. Maintenant, est-ce que le questionnement est un signe sur l'orientation sexuelle ou non? Le questionnement est juste un questionnement. Quand on parlait, abordait la question d'une phase homosexuelle, d'un narcissique, comment être sûr de soi, du questionnement, est-ce qu'il y avait un reliement? C'est clair qu'il y a une phase où on se pose plus de questions sur la sexualité de manière générale. Qu'est-ce qui se passe? C'est normal. C'est normal d'être curieux par rapport à quelque chose que vous ne connaissez pas.
Et c'est normal de se poser plein de questions. C'est aussi normal d'être troublé, ne serait-ce que parce qu'il y a des problèmes d'univers biologiques, parce qu'il y a aussi des univers sociaux dans l'entourage, parce qu'on essaie de se positionner dans une société qui est animée par différents enjeux, et notamment dans l'orientation sexuelle. Donc, c'est tout à fait normal de se poser des questions maintenant. On a jamais fait des questions. Je crois qu'une des possibilités, une des clés pour entrer en lien avec ce jeune et pour ne pas tomber dans le piège de lecture de son expérience au travers de lieux hétérosexuels, c'est de s'évoquer bien avec des questions et comment est-ce que moi je l'accompagne dans ces questionnements-là. C'est-à-dire que, moi, en tant que prof, j'ai eu mon vécu, oui, mais ça ne veut pas dire que si un jeune va venir vers moi en médiation, et en tant qu'enseignant, il va me dire, je pose des questions, mais je ne suis pas venu le même, ça ne veut pas dire qu'il va vivre exactement la même chose que moi. Et je crois que c'est aussi important de garder ça en question, c'est qu'on a chacun des trajectoires différentes, et des questionnements aussi différents. Et à partir de ce moment-là, rester dans le contact, rester dans le lien, dans l'ouverture, dans la discussion et dans l'échange, ça paraît particulièrement important. Donc, qui a questionnement maintenant, est-ce qu'il y a une affirmation de son orientation sexuelle ou même simplement un vécu sans forcément l'affirmer ou le prendre? Ça, c'est encore autre chose. Il y a toute une phase dans la vie, même au travers du témoignage de l'histoire, du communiqué, où il y a une phase d'intégration, d'acceptation de son être, et d'acceptation de ce qu'on est en train de vivre, et de positionnement. C'est pas évident, face justement à une vie sans forcément parler d'homophobie violente en termes physiques. Mais l'homophobie peut-être plus forte, peut-être plus sournoise, et l'homophobie intériorisée, de se positionner, de prendre de l'assurance, et d'aller jusqu'au regard, et puis à la discussion, à la question de la situation de son entourage. Donc, l'intérieur reste dans le lien, c'est quelque chose de particulièrement important. En tant que parent, et même en tant qu'enseignant, je dirais, ce qui est aussi essentiel, c'est d'essayer d'entrer dans cette dynamique de compréhension et de compréhension mutuelle. Un jeune qui fait ce communiqué, au lieu de savoir qu'il ne fait pas du jour au lendemain, parce qu'il ne fait du jour au lendemain, mais après une longue phase de réflexion, c'est bon, comment il se sentait lui ou elle. Comment ça allait se passer, comment on peut souvent ça commence par les amis, ensuite ça continue par les frères et sœurs, ensuite un des deux parents, ensuite le deuxième, la famille élargie, les collègues, etc. On n'a jamais fini, maintenant il n'y a pas de trajectoire bien précise. Mais je crois aussi que quelqu'un qui fait son communiqué auprès d'une autre personne a une responsabilité auprès de cette personne. Elle choisit la personne qui en parle. Et je pense aussi que il est normal d'accepter en retour que la personne à qui on parle ait le temps de faire son processus, ait le temps d'encaisser entre guillemets la nouvelle est de se positionner. Un parent qui apprend que son enfant est bien, on ne peut pas demander de lui, quand deux sont bénis, qu'il lui dise « Ah, génial, je rêvais la main. » Je doute que ça arrive très souvent. Par contre, du moment qu'on reste dans une phase ouverte de la confiance, c'est-à-dire que le jeune, il y avait un âge plus avancé, on explique ce qu'il a vécu, ce qu'il est en train de vivre, et puis quels sont peut-être ses rêves d'avenir, et que le parent, l'enseignant, c'est peut-être pas la même relation, en tout cas le parent, puisse aussi dire comment il sent vraiment paraître noir et triste. J'ai trouvé ça vraiment magnifique, le fait de dire oui, ben, j'ai noir et triste. C'est vrai, ok, c'est peut-être, ça va peut-être évoluer, mais sur le moment, un parent, un fils, et puis cette tristesse qui va sortir, ça veut pas dire que le contact n'est plus possible, mais ça peut être aussi un vécu du parent, un cheminement du parent qui est nécessaire. Tout ça pour rentrer. Bon, je crois que le plus important, c'est ce lien, véritablement, entre un enfant et son parent. Après, toutes les représentations qu'on peut avoir, peut-être, d'ailleurs, sur ce que c'est cette scène lise, ou le milieu qui est, tous les clichés, les perceptions, les questionnements aussi que les parents peuvent avoir, enfin, c'est par contre au moins avoir des réponses, ils ont le droit de savoir aussi ce que leurs enfants vivent. Maintenant, ça ne veut pas dire que, forcément, la curiosité. Il y avait une question tout à l'heure sur est-ce qu'on en fait des questions directes ou bien il faut laisser venir. Je crois que c'est une question de ressenti et puis de contact avec les enfants ou les jeunes en enseignement. Si on se dit, ah bah tiens, tel terme, je me demande si la conversation de mon enfant, c'est pas des questions qui t'apparaissent. C'est de partout. Mais je crois que poser la question de but en blanc, ah bah tiens, bon, on se marie pas. Je pense que ça va vraiment joker. Si c'est en plus devant tout le reste de la classe, on va parler de pas. Je pense que c'est plutôt dans l'attitude. C'est-à-dire que je ne veux pas prendre un exemple, mais je vais donner un exemple. Je vais donner une anecdote par rapport à ça. Donc, comme je disais, j'ai pas fait combien de classement. Mes élèves de ça, ont téléphoné à la maison, c'est encore très important, c'est mon ami, il y a eu mon dans la presse, etc., etc. Et je crois qu'il y a aussi dans le discours, on intègre justement ces thématiques-là, les élèves ressentent aussi qu'ils peuvent en parler plus librement. Et c'est là où je m'oppose à tous ces gens qui disent que l'homosexualité ou l'orientation sexuelle est un tabou dans la société. Ce n'est pas un tabou. On en fait un tabou, oui, mais les premières personnes à en parler à l'école, ce n'est pas les enseignants gays, ce n'est pas la direction, ce n'est pas les enseignants présidents, c'est les enfants eux-mêmes. Ils ont des questions, ils ont envie d'en parler, ils ont envie de répondre à leurs questions, ils ont envie de donner leur avis. Et plus on ouvrira d'espace de discussion en les laissant eux s'exprimer et non pas en imposant notre vérité à nous, plus. Je pense que cette homophobie ambiante, qu'elle soit verbale ou physique, aura des chances de changer.
Je suis d'accord, on va sortir sur les questions. Oui. Plutôt théorique comme ça, quelques autres questions après, si vous êtes d'accord aussi.
J'ai juste une remarque par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure en vous disant, mais. Parce que, en même temps, c'est partie du remarque, c'est une question. C'est de ajouter, ce terme-là, enfin, je trouve que, discriminer, etc., avoir un discours, vraiment, dans une situation, ça
peut être. Alors,
Je réponds, on va pas une question réponse là-dedans.
Alors, c'est vrai que c'est un terme qui est extrêmement redouté. Mais je pense aussi, bon, déjà on l'entend très souvent ce terme, et qui est considéré comme une insulte. Maintenant, il dépend de ce qu'on en fait. C'est-à-dire, est-ce que ce terme qu'on associe à une vie, ou à la démocratie, ou bien est-ce que c'est un terme général? Je pense que tout dépend de ce qui se cache derrière. Il y a beaucoup de jeunes ou de personnes qui l'utilisent de manière plutôt banale. c'est pas le même point de vue, c'est pas la même perspective. Voilà, je suis très content concerné. D'autres personnes peuvent être choquées et laissent le comprendre tout à fait. Parce que ça les gêne pour certaines raisons, il y a parce qu'il faut se faire un support. Moi, personnellement, et c'est aussi un vocabulaire qui est réutilisé par les lesbiennes et elles-mêmes pour se réapproprier une insulte en pleine force. Et je change complètement la manière dont on utilise.
On va peut-être faire la question réponse maintenant, je vais répondre à cette question en tout cas dans le tableau. On a fait des question qui était qu'est-ce qui fait qu'un garçon est ou devient homosexuel à la vie ou des vers, et qu'on est homosexuel pour tout, nous avons vrai là-dessus.
Il y a une sorte de théorie qui existe, tout a été dit, de l'inné à l'acquis, la mélange des deux, bien vite. Il peut y avoir une question hormonale, peut-être, donc une part qui est, mais il y a aussi une part de contexte social. Et je crois que l'important, c'est justement le fait. Est-ce qu'on a véritablement envie de se dire, ah ben voilà, c'est, ça vient des gènes, donc mais bien ça vient des hormones. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a senti, ah ben ça doit être un dérèglement hormonal? Si on parle d'un principe de dérèglement hormonal, tout de suite on s'est inscrit dans un discours hétéro-centré. Est-ce que c'est simplement un développement parallèle ou bien une facette ou une variété de la continuum de développement hormonal ou même si on parle de lignée ou d'une question biologique? Ou bien, est-ce qu'il y a aussi des facteurs sociaux et culturels? Et je crois que les deux vont en prendre une réaction à ces deux.
J'en ai un peu, il y a des questions qui sont plus sur les commentaires ou les marques qui sont les autistes, si vous avez parlé tout à l'heure, et on a eu le besoin de.
Je ne sais pas si moi aussi il était un gros. J'ai vu plus un comportement ou un ressenti. Le ressenti, c'est plus au niveau du ressenti. Parce que si je réfléchis et que je suis en opposition centrée, on a de nouveau dans les caricatures de l'homme qui sera éliminé et puis l'hétéro qui sera renfort sportif. Voilà. Comme toi. Mais je sais que chez nous, c'est un peu comme ça, mais c'est surtout, je ne pense pas que ce soit général. Florian est au milieu, donc avec un grand frère et une petite sœur, mais a toujours, je crois, préféré jouer avec sa petite sœur. Ça ne veut rien dire, ils étaient proches. Tous les enfants sont 3, 8, 4, 3 ans, donc là, je jouais pas un rôle. Il appréciait beaucoup les sœurs, les copines de sa petite sœur, on pourrait voir aussi sous un autre aspect. Il y a aussi une question, est-ce qu'ils ont des copines ou des enfants? En tout cas, pour Florian, oui. À 8 ans, on se posait déjà la grande question, comment faire pour qu'elle m'aime plus qu'elle aime les autres? Et puis, il m'a demandé comment faire pour qu'elle m'aime plus. Et puis, en tout cas, elle a toujours été beaucoup entre les filles, et c'était pour moi aussi un signe. Parce qu'en tant que femme, j'étais très bon avec les hommes avec qui je m'entendais très bien, un peu comme des copines homosexuelles. Donc, je sais pas si ça a un rôle qu'on est aussi proche. Mais bon, on est aussi très proche. Et si, le dernier qu'aurait dû mettre la puce à l'oreille ou au yeux, c'est qu'il avait pendant des années une charmante blonde qui partageait son lit en toute amitié. C'est vrai que là, j'en ai quand même une vie. C'est venu tout de suite dans la discussion. J'ai tout de suite dit, mais alors je ne serai pas pour un moment. Bien sûr, il y a Jim disant, on n'a pas beaucoup d'enfants, ce sera pour un moment avec les autres. Moi, j'ai dit, mais je voulais encore un petit flambement. Et pour moi, et avec les amis de ma génération, si on est homosexuel ou lesbienne, on n'a pas d'enfants. Mais je me rends compte, dans les discussions, c'est pas le cas des plus jeunes. Pour eux, c'est pas comme ça. Ils peuvent très bien avoir des enfants. Maintenant, voilà. Moi, j'aimerais être grand-maman aussi, comme ça.
Ce sentiment de culpabilité, qu'est-ce que j'ai voulu?
Moi, je me suis pas du tout posé la question au départ, non. Mais c'est le. Ce que je renvoie les autres, oui, dans la question, oh, mais quand il est né, qu'est-ce que vous voulez, fille? Bon, j'avais déjà un garçon, il y a une énergie, c'est sûr, que je rêvais une petite fille tranquille, mais j'ai eu un petit garçon tranquille, donc, au moment où il est né, je ne me suis plus du tout posé cette question-là. Ensuite, on m'a dit qu'il allait être chouchouté, c'est les autres qui me renvoient un sentiment de culpabilité, moi, personnellement, non, pas du tout.
Moi, ça fait trois fois en fait. C'était trois fois très différentes. Une fois, c'était un adulte. Je voulais juste aller plus loin. J'ai dénoncé en fait la direction dans les conditions dans lesquelles il travaillait. Et les deux fois d'avant, en fait, j'en ai pas parlé plus, tout simplement parce que j'en ai pas encore parlé à ma mère, par exemple. Et j'aurais pas envie que ça s'arrête comme ça. Pour vous donner un exemple, une des fois, c'était la fois où c'était pour moi moins grave, mais c'est simplement que je me suis assis dans le train après avoir quitté mon copain, on s'est juste fait un bisou comme tous les hétéros le font. Donc l'idée, c'est pas de rentrer dans l'idée de choquer les gens en son passant, mais on se dit, alors, on peut faire la même chose, on va pas se couper des patins parce qu'on n'a pas envie d'aller trop loin non plus, mais juste un petit bisou pour que, voilà, nous c'est normal. Et je suis allé m'asseoir dans le train, il y avait une bande de jeunes qui était là. On va être très venu s'asseoir autour de moi sur les places à 4. Et depuis ce moment-là, en fait, j'ai entendu toutes les insultes possibles et imaginables, confusées, comme ça. Moi, je me suis levé, j'allais partir, et il y en a un qui m'a dit, tu vas beaucoup t'aider. Et j'ai continué un petit bout, je me suis rendu compte qu'il était juste avec moi. Et là, j'ai pris en fait à une bonne droite dans la tête par derrière. Hein. Et je m'ai avancé encore un petit coup de pied en plus, parce que c'était pas assez une bonne droite. Et ben, c'est une chose comme ça, ça fait mal parce qu'on est atteint vraiment à l'intérieur. Et puis je suis allé plus loin. Heureusement, ils ont pas les caméras et tout, je pense que ça les a quand même calmés. Je suis allé m'en sortir du train, démonté, triste, fâché. Voilà, quoi, bah, il y a une défaut, ça m'a fait
une belle précision. Il y avait une question aussi, partout pour savoir si c'est vraiment.
Alors, ben, moi je me dis que j'ai commencé à y penser vers 14-15 ans et je pense que j'ai suffisamment testé la chose, j'ai écouté franchement, j'ai essayé avec les filles. Hein. J'ai des petites copines, on essayait juste de les embrasser et tout, mais quand on voit qu'il n'y a rien qui se passe et qu'on ne ressent rien, c'est difficile d'embrasser parce qu'on se met. Franchement, c'est ça que ça doit sentir quand on est amoureux, mais il n'y a rien, ça ne joue pas. Et puis, j'ai mon premier copain et puis mon premier bisou, c'était là, je me suis dit, ben, c'est ça que que je dois ressentir quand on parle de mon vivant amour. Et puis pour moi, c'était la preuve suffisante pour me dire, ben oui, je suis en possession, mais je ne garantis pas que ça va rester comme ça, parce que je connais des personnes qui ont changé. Mais pour moi, maintenant, c'est quelque chose de clair. Et puis je suis je peux dire comme ça, c'est. Donc pour moi, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de chercher un 14h, parce que je suis heureux comme ça, pour pas me dire, mais est-ce que c'est pas un passage, comme ça, je trouve que ça sert à rien, je suis heureux comme ça maintenant, et puis je vais continuer donc d'être heureux, et s'il faut que, si mon corps me dit que ça, c'est autrement, ben, pourquoi pas revenir faire autrement, quoi. Je suis à part de chercher plus loin pour moi.
Et puis aussi, une question, la honte, vous avez honte devant vos parents, devant vos amis, de vous montrer en tout.
Moi, j'ai pas honte, je fais toujours attention que, en fonction des circonstances, de ne pas choquer, de parler trop loin, parce que je sais que ça peut être difficile, j'ai pas envie de rentrer dans le jeu de la provocation non plus. Donc, je fais attention s'il y a des enfants qui sont là pour que les parents soient pas hyper mal à l'aise. Mon idée, c'est pas de forcer les choses. Non, on a pas de gêne, ça doit s'installer. C'est sûr qu'au début, on a un peu d'appréhension à se montrer et tout, mais après, ça s'installe et puis il y a tout qui roule assez normalement.
Merci. Comme je vous ai dit, ça peut vous ramener.
C'est pas une question, mais je sais pas, moi, c'est. J'ai pas. Moi, je suis un peu comme ça, puis le pacte de mariage, je crois que ça arrive dans plusieurs pays, et puis maintenant, c'est pas une idée que j'ai dans ma tête. Je comprends qu'il y ait beaucoup de monde qu'on est des gars qui aient des droits et tout ça, mais moi, je suis un peu comme ça, puis j'aurais pas besoin d'avoir la même chose, parce que pour moi, la preuve d'amour, c'est tout simplement la vie tous les jours. J'aurais pas besoin de dire, bon, on va se marier, bon, pour celle-ci, ça, c'est tous les jours qu'on est amoureux, qu'on partage les choses ensemble, qu'on est heureux. Et puis moi, j'ai pas besoin de plus en mais je comprends que plein d'équipes de monde. Donc, non, maintenant de ce stage, je pense que c'est un acte que l'on ne pense pas forcément à se marier. Ça va peut-être venir après, je me dis que, moi, d'ailleurs, ça me dirait bien, mais maintenant, c'est quelque chose que j'ai pas en tête.
Je veux bien sûr que tu avais le temps à Lucien un peu après mon ici. Qu'est-ce que vous pensez du milieu gay?
Pour moi, le milieu gay, c'est un peu quelque chose. Moi, ça ne m'attire pas du tout en fait. Dès le départ, je me suis rendu dans une association, j'ai rencontré du monde et moi, je me suis dit que je n'avais pas besoin de rentrer dans ce groupe, dans ce. D'être avec ces personnes pour me sentir la force de vivre mon homosexualité, pour me sentir, pour avoir des amis et tout ça. Peut-être que, moi, mes amis, maintenant, ils savent que je suis homo, ça va très bien. Pour moi, c'est quelque chose, je fais partie de la société, et puis j'ai pas envie d'avoir me mettre dans une association pour vivre mon homosexualité. Je veux comme ça, parce que j'arrive aussi à mener un combat pour essayer de changer les choses en étant totalement hors de ce système.
Je peux l'arrêter, je suis totalement d'accord avec vous. Je suis contente qu'il y ait des gens qui se battent. Je trouve aussi, si on revendique finalement d'être comme tout le monde, je me sens presque mal à l'aise de devoir militer. Il y a une opposition, finalement, être comme tout le monde, c'est justement être comme tout le monde. Aimer, moi je trouve finalement avec mon vécu, je me dis que l'amour, aimer, ça n'a pas de sexe. Donc, le verbe aimer, il est neutre. Peut-être qu'un jour, ce sera un homme. J'ai l'impression d'aimer l'être humain, peu importe qui soit. Mais militer, oui, mais je ne suis pas non plus pour les gay pride. Ou le milieu, si on veut être comme tout le monde, là on est dans le monde comme tout le monde. Et je trouve très bien que vous parliez de ça à votre âge.
On va
changer de débat, on a dit que je vais les trouver des côtés. J'ai beaucoup de plaisir à rentrer le milieu, donc je ne sais pas, c'est un peu de mon choix. Alors, en tant que parent, moi, ça m'a rassurée, parce que j'ai rencontré des gens en changement, hein, des gens vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer, à être avec eux, et puis en tant que parent, mais on se dit, enfin, voilà, c'est des gens, bien sûr, qui se sont mis dans l'association, chacun a souvent sa raison, mais non, on a des images négatives de ce milieu, on a des images de grandes folles, comme disait mon fils, quelles sont les... Quand le matin il doit mettre des photos de la Gay Pride, il montre quoi? Il montre pas les neuchâtois qui ont un joli t-shirt tout froid, pas du coup, comme s'ils étaient de gym. Non, on va montrer, l'année passée en tout cas, c'était des monsieur de mon âge avec des derniers vendus, ce machin. Donc, si c'est ça l'image que se fait, et par contre, c'est important de prendre d'autres pour dire, mais non, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui sont actifs et qui vivent aussi pas toujours des choses faciles. Une autre image plus positive.
Puisque l'on parle aussi de ce ministre qui vous colle en contact, la présidente de l'association économique, qui est dans la place, la pierre qui est dans la salle.
Si je peux juste dire quelque chose, nous justement, c'est notre association qui se fait 5 ans.
On est arrivé à des prêts.
Et puis en fait, notre but, c'est justement d'offrir un cadre où tout le monde peut se sentir bien. On a une association pour les jeunes homosexuels, lesbiennes comme ça, mais ouvert à tous ceux qui se sont concernés par les questions de l'orientation sexuelle. Et puis justement, le but de notre association, c'est d'organiser des sorties qui puissent être au goût de tout le monde. Donc, on peut des sorties de sortie à la montagne, on peut des sorties partout. Donc, nous, on essaie vraiment de fournir une alternative à ce qui est vraiment considéré comme le milieu, c'est-à-dire des boîtes, des zones, comme ça. On veut vraiment toucher beaucoup de monde et puis faire en sorte qu'on a aussi beaucoup de gens hétérosexuels qui viennent à nos sorties. Donc, c'est vraiment quelque chose que je tiens à faire un point d'honneur sur notre question parce que je considère que c'est une de nos particularités.
Merci. C'est pas le plus agréablement d'en avoir un seul. Ce milieu, cette scène, l'homosexuel, est très varié. Enfin, c'est très varié. Et moi, je trouverais dommage de s'inscrire dans un discours où on dit qu'il faut montrer, il faut donner une image positive de l'homosexualité. L'homosexualité, oui, c'est des sentiments. Mais l'homosexualité, c'est aussi chez les jeunes qui l'ont fait. Enfin, c'est beaucoup plus violent que la sexualité. Aussi être confronté à une violence quotidienne par rapport à l'homophobie. Et je pense que s'inscrire dans le discours de l'image positive de l'homosexualité, c'est reproduire une violence à l'égard d'autres personnes qui ont tout à fait aussi le droit d'exister. Maintenant, si les médias se focalisent sur les graphiques, si les médias se focalisent sur les personnes fragmentées de cuir, ça, c'est il y a un travail à faire auprès des médias et non pas auprès de taper sur ce
milieu. Je vais vous donner des questions, on a fait un peu de beaucoup. J'ai une question qui était sur le thème d'enfance, les jeunes en particulier, comment aider un jeune à faire un coming out, que notre base n'a pas coming out, puisque notre base n'a pas coming out, c'est trop souvent.
Alors, comme je disais tout à l'heure, ça fait aussi par rapport à ne pas imposer sa condition hétérosexuelle, sa culture hétérosexuelle. Je crois que il y a des distinctions à faire. Le jeune qui vient vers un adulte qui sait hétérosexuel, il vient vers un hétérosexuel, il vient vers un adulte. Pourquoi ne pas prendre sa condition mais l'idée, c'est plutôt d'accompagner dans son questionnement, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il y a différents niveaux d'aide à apporter. On peut faire apporter une aide sur peut-être des questions de santé, par exemple. On peut apporter une aide sur les ressources, qu'est-ce qui existe, quelles sont les associations qui existent, quels sont les manuels, les brochures qui existent, quelles sont les personnes ressources
Est-ce qu'il y a des groupes de jeunes dans la région ou bien à proximité? Ça peut être une aide. Ensuite, l'accompagnement, on pourra jamais donner à un jeune une liste de différentes étapes à régler au fur et à mesure. C'est un leurre de penser ça. Chaque jeune a son contexte particulier et trouvera lui-même ou elle-même le moment propice, la personne propice. C'est plus peut-être un peu discuter avec ce jeune et discuter de ses représentations, discuter, s'inscrire dans une promotion, dans une perspective de promotion de la santé, de promotion du bien-être, pas parmi les problèmes, mais parmi les vécus. Qu'est-ce que tu vis? Comment tu te sens? Et puis, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as à disposition? Qu'est-ce qu'on a à disposition pour que tu te sentes mieux si jamais tu te sens pas bien? Et je pense aussi qu'il ne faut pas penser que ça peut être des problèmes à tous les jeunes. Il y en a qui vont très bien. Et ça, c'est une bonne idée aussi. Mais juste, comme on dit, il y a une brochure qui existe. Elle est là. Elle est au fond, sur la table de toutes les vies. Elle est là-bas. Moi, je trouve que ça fait l'essentiel. Qui a été édité il y a quelques années. Vous pouvez en prendre un exemple suffisamment. Vous pouvez également trouver toutes les coordonnées des associations romandes et les sites internet également des associations romandes. Vous pouvez télécharger aussi cette brochure sur internet. Donc n'hésitez pas à vous y référer si jamais. Ça donne des pistes, ça ne donne pas forcément des réponses à toutes les questions, mais ça donne des pistes de réponse. Et puis on vous donne un bon.
Puis-je vous aborder peut-être avec Stéphane, est-ce une phase dont tu fais des maladies dans le développement de l'enfant, le doux narcissique?
Est-ce que c'est naturel ou pas? Je pense que certains ne s'imposent pas. Est-ce qu'une phase hétérosexuelle est naturelle chez un jeune qui est maintenant qu'il y ait des questionnements, ouais, ça c'est tout à fait normal, je crois, et qu'il y ait des insécurités parfois, et puis c'est tout à fait normal, et même dans la France.
Je parle de l'enfant, cette question qui est plus précise, bon, sur comment réagir face à un enfant,
et autrement. Ben, je crois que. Il faut surtout se positionner dans sa position parent. Se dire quelles sont les limites à moi en tant que parent, qu'est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte de pas. Mais en restant dans cette position ouverte, en disant mais qu'est-ce qui pose problème là-dedans? Est-ce que c'est l'idée que ma fille ou mon fils pourrait être homosexuel? Ou bien est-ce que c'est ce comportement-là, ou ce qui se passe là sous les yeux d'un peu, qui n'a pas forcément un lien avec une orientation sexuelle. Est-ce que j'accepte ça, est-ce que je n'accepte pas, et comment je réagis par rapport à ça? Ça, je pense que c'est en lien avec ses propres valeurs, hein, et puis avec son propre conditionnement en tant que parent. Après, je ne pense pas que ce soit, qu'il faille tirer une conclusion trop rapide sur. L'orientation sexuelle d'un enfant assez fort. Il y a encore plein de choses qui vont bouger dans les questionnements. Et puis, le fait que les enfants s'interrogent sur une spécificité de leur corps, parce que je le découvre, je ne sais pas, il y a des choses qui sont normales, qui sont normales là-dedans. Maintenant, je pense que.
Merci. J'ai l'impression en disant que, après nous avons une question de toutes ces thématiques qui se sont posées, les questions qui ont été abordées, il nous reste une dizaine de minutes pour terminer sur cette émission. Que je vais trouver la discussion, si vous avez d'autres questions, des remarques ou les dernières questions que vous posez encore. Voilà. Qui va dire
la parole de la thématique du suicide.
homophobie ambiante qui amène. Mais au-delà du suicide, je pense que le suicide, c'est peut-être l'expression la plus radicale d'un malaise. Mais il y a toute une question d'estime de soi et de. Peut aller de la dépression aussi pour les sens du suicide. Mais il y a aussi tout un rapport, peut-être, de dépendance, de dépendance, le rapport à l'alcool, le rapport à la fumée, aux drogues. Là, je pense qu'il n'y a pas que les gestes de suicide aussi. Et il y a également, je pense, aussi les questions de l'estime de soi. Donc, c'est clair que c'est indispensable d'inscrire le discours en lien avec l'homophobie dans un discours de santé publique. Ça, c'est indispensable maintenant, donc les plus de bons, on va dire, évidemment, les plus de bons. Il y a un pourcentage de tentatives de suicide. Donc, maintenant, victimiser les gays et les lesbiennes. Oui, il y a plus de tentatives de suicide, mais il n'y a pas que le suicide, il y a aussi un travail de promotion de la santé à faire. Et parce que pas du suicide, c'est plus dans la réaction. Tandis que la promotion de la santé, c'est dans la prévention. Et je pense que le jour où on inscrira la thématique de l'orientation sexuelle et le rejet qui est lié à cette orientation sexuelle dans un discours, dans une perspective de promotion de la santé et aussi de droits humains, d'éducation à la citoyenneté, je pense que là on fera un très grand pas, puisque ce ne sera plus quelque chose qui ne concernera que les gays et les lesbiennes. Mais ce sera aussi un sujet qui concernera tout le monde. Pas toujours les personnes qui vont concerner, mais tout le monde est concerné. Tout le monde peut connaître quelqu'un qui est lesbienne, que ce soit un copain, un membre de la famille, un enseignant, un parent. Et je pense que le jour où on franchira ce pas-là, où on changera la perspective, on verra l'autre perspective de la vie. Mon problème en fait, mon problème d'individu, là, on ne comprend pas. Donc, c'est en ce sens-là où, par le suicide, oui, c'est indispensable. Oui, parler des problèmes de santé et de santé publique, c'est indispensable et il y a des choses qui se mettent en place actuellement. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, vers quoi ça s'attend? Donc, là aussi, on peut se rendre compte.
Une question à tout justement, il y a des émissions qui sont sur les associations, les délires avec la SASCOL et la SASCOL. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a plus facilement de communion, qu'il y a plus de personnes qui vont prendre la route?
C'est difficile à dire puisqu'on ne comprend pas. Mais moi, je dirais que le problème, c'est qu'il existe, il existe une association, mais les médiateurs, les infirmières scolaires ou les personnels de l'éducation ne sont pas forcément au courant parce qu'il y a un réseau qui n'est pas institutionnalisé. Donc, c'est à ce niveau-là que ça va au niveau de l'information. Maintenant, est-ce qu'il y a plus de communication qu'avant? Peut-être parce qu'il y a une plus grande visibilité maintenant. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Parce que la visibilité qu'il y a actuellement, elle engendre aussi une plus grande violence chez certains. Et il y a encore justement parce que c'est visible. Donc, qu'est-ce qui m'a plus j'aurais du mal à dire. Mais il y a plus de moyens en tout cas.
Mais moi, je n'ai pas trop.
Thank you.
dans les enfants, alors qu'on dit que les filles qui sont aussi très violentes.
Moi, j'ai envie de dire aussi aux parents, c'est à nous aussi d'être à l'écoute et bien faire comprendre aux enfants qu'on les aime tels qu'ils soient, qu'on peut ne pas aimer ce qu'ils font, mais qu'on les aime pour ce qu'ils sont. De garder les liens avec eux. C'est pas facile à l'adolescence, essayons de ne pas couper ces liens, de faire des dialogues, faire attention aux réflexions qu'on peut faire. Tous les jours, parce que quoi, ils nous provoquent de voir qu'est-ce qu'elles penseraient. Alors, on a vite fait de faire une réflexion négative et de donner beaucoup de moi.
Merci.
Bien,
merci d'avoir souligné tout ça. Comme le parent a tourné, je sais qu'il y a plein de gens qui veulent s'exprimer, qui veulent dire des choses. Ce que je propose, c'est peut-être des discussions qui se suivent de façon informelle, par la suite ici. Parce que c'est beaucoup de gens là qui ont beaucoup de choses à faire. J'ai envie de dire, peut-être, pour conclusion, c'est que la l'ouverture de la discussion, faire avancer, c'est par des soirées comme ça, si les gens viennent, et avec les gens qui viennent, qu'on va pouvoir faire. Et aussi dans les interventions qu'on fait au niveau de la formation des enseignants et des personnes qui travaillent avec les jeunes. Il y a aussi une petite remarque belle.
Ouais, ça serait juste une conclusion, disons, avec ça rapide, c'est pour ça que je m'impose. Je trouvais très intéressant toute cette discussion, justement, mais il y a un certain, quand même, une certaine douleur. Enfin, moi, personnellement, j'ai senti aussi donc, ma maman, quand même, qui parlait, là. Donc, c'est moi qui s'y trompe un jour. Non, mais disons que c'est clair que c'est quelque chose de compliqué. Mais après, moi, j'ai senti pas mal de tristesse, de peur, justement. Après, on est en plus, là, on va terminer cette séance en parlant de suicide. J'aurais juste, disons que c'est clair, c'est compliqué d'être homosexuel, c'est compliqué de faire son coming out, mais en réalité, c'est autant compliqué d'être hétérosexuel, et puis de s'assumer. Donc, faut pas non plus avoir une peur, c'est pas parce que son fils, enfin, il y a ses risques, mais enfin, un hétérosexuel, ben aussi, on a aussi des qui vont se suicider parce qu'ils se trouvent trop gros. Après, c'est pas pour comparer l'homosexualité à l'obésité, je veux dire. Quelqu'un qui est trop intelligent dans une classe va aussi se sentir exclu, disons. Après, c'est aussi, on peut se bien vivre avec soi, il faut s'assumer, en étant en gros aussi, être beau, disons. Mais c'est ça, on peut aussi bien vivre. Moi, je vais juste finir sur cette note, c'est que finalement, si on sait s'entourer des bonnes personnes et qu'on sait être soi-même, on peut bien vivre ça. Maintenant, j'ai peut-être que 20 ans, mais aussi en écoutant les autres, j'en marque aussi. C'est pas une barrière, c'est pas une tare finalement. Enfin, pas plus, peut-être plus différemment, c'est vrai qu'il y a toute cette question de tabou, mais cette tare, c'est en même temps, comme j'ai dit, on pourrait très bien être par notre façon de voir les choses, nos idéologies, sentir aussi en marge la société. Donc, disons que le truc, c'est que, autant vivre comme on est, avoir ce certain égoïsme, disons, de vivre pour soi. Mais après, je veux dire, tant qu'on est entouré aussi de d'autres personnes, on a aussi la chance en Suisse, comme ça, dans certains pays, de bien pouvoir vivre ça quand même. Je veux dire, voilà, non, mais c'était ça. C'est un peu sur une note positive. Moi, je crois que c'est vrai. On va pas rester chez soi, on va regarder dans le sol, et on se dit, non, mais j'en ai, quel merdier, comment on va se sortir de là. C'était juste.
Merci pour cette note positive. Merci beaucoup de l'autre pour la prise de la si vous voulez après. Vous pas d'abord pour la conclusion.
Merci à tout le monde. Moi, j'ai beaucoup, personnellement, beaucoup apprécié cette soirée. Alors, c'est vrai qu'on a dit qu'on n'était pas beaucoup, mais je trouve que c'est vraiment un début hein, aussi. Je suis très content de l'avoir organisé. Je vous remercie beaucoup pour le témoignage. Il y a un certain nombre de livres qui permettent de poursuivre la réflexion sur certaines questions, et sur certaines autres questions pour lesquelles il n'y aurait pas encore de réponse, ben, il y a un certain nombre de livres.
Hein.
Ah, je